Salut tout le monde!
Nous sommes les premières 5 du lycée Pierre de Fermat.
Et voici notre podcast sur l'écologie.
Éco-Fermat, les voies vertes de demain.
Des sujets qui nous tiennent à cœur, nous préoccupent et dont on avait envie de vous parler.
Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes Félise, Adam et Anaë de la classe 205. Et nous avons décidé aujourd'hui de vous parler de la fast fashion, car ce phénomène est d'actualité et concerne de plus en plus de monde. La fast fashion désigne une tendance très répandue dans l'industrie de la mode, reposant sur un renouvellement ultra rapide des collections à bas prix. Une marque de fast fashion peut sortir jusqu'à 36 collections par an, contre 4 pour une marque de mode classique. Pour tenter de cacher ce qui se trouve derrière nos étiquettes, les marques de fast fashion multiplient les réductions, soldes et autres publicités pour nous pousser à consommer toujours plus et toujours plus vite. Pour chaque nouvelle collection, les entreprises dépensent d'énormes sommes pour leur stratégie marketing. Nike, par exemple, dépense davantage en marketing qu'en salaire aux ouvriers du textile. On en arrive à se lasser rapidement de nos vêtements et à les remplacer par d'autres. Leurs vêtements s'abîment vite et les tendances changent, ce qui pousse à consommer à nouveau. Et toi, Adam, qu'as-tu à nous dire sur l'impact de cette tendance ?
Pour diminuer les coûts, la fast fashion privilégie des matières non renouvelables, pétro-sourcées, telles que le polyester, l'élastane ou le nylon. Les cultures et les procédés de transformation, comme la teinture, nécessitent aussi une quantité importante de produits chimiques. Ces matières chimiques finissent par polluer les eaux, les sols et empoisonner les populations locales. La production de fast fashion se fait en majorité dans des pays où les minima sociaux ne sont pas respectés en raison de l'absence de contrats. Travail de l'aube au coucher du soleil, salaire de misère, bâtiments insalubres, travail des enfants. La liste des défaillances est longue. Et toi, Félise, tu peux nous parler d'un exemple en particulier ?
La fast fashion, c'est également, mais surtout, des marques comme Zara, Shein, Bershka, H&M et j'en passe. Aujourd'hui, prenons en particulier le cas de Shein. Cette enseigne est qualifiée de système d'exploitation massif. En effet, les salariés travaillent 12 heures par jour, soit 72 heures par semaine, pour n'avoir qu'un seul jour de congé, sans compter les salaires déplorables. On la qualifie aussi de machine infernale. Et oui, 22% des émissions CO2 des adolescentes françaises sont dues à Shein, qui connaît un véritable succès, lui permettant en 2022 d'atteindre un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros. À présent, nous allons laisser la parole au groupe suivant qui vous parlera de Dubaï.
À présent, Lina, Emma et moi, Maya, allons aborder à vos côtés une autre catastrophe écologique, le Manhattan du Moyen-Orient, autrement dit Dubaï, une ville qui enchaîne scandale sur scandale écologique, avec une empreinte carbone par habitant 4 fois supérieure à en français normal.
La pollution à Dubaï est un défi croissant. Les voitures affluent dans les rues, crachent des émissions nocives, les chantiers de construction relâchent des poussières et des gaz toxiques. La chaleur et l'humidité augmentent les niveaux de pollution atmosphérique. Les industries et les centrales électriques contribuent également à la pollution de l'air. Les efforts pour contrôler la pollution comprennent des normes d'émissions plus strictes et des initiatives pour promouvoir les transports en commun et les énergies renouvelables. Malgré cela, la lutte contre la pollution reste un défi majeur pour Dubaï.
Aujourd'hui, la ville de Dubaï consomme beaucoup d'eau. La multiplication des piscines, des terrains de golf ou de polo demande une importante quantité d'eau pour les entretenir. Sa consommation est 3 fois plus grande par habitant qu'en France. Par ailleurs, les pistes de ski sont en intérieur, dans le centre commercial Mall of the Emirates, qui est en plein désert. De plus, l'entreprise Arctic Ice envoie des tonnes de glaçons à Dubaï pour être utilisés comme glaçons dans les cocktails.
Dans sa course effrénée au développement, Dubaï met en danger les écosystèmes locaux. Les projets de construction démesurée et l'urbanisation rapide entraînent la mise en péril de la biodiversité. Le projet Palm Islands a conduit à l'importation de 150 millions de tonnes de sable pour sa construction, conduisant à l'effondrement des environnements marins. Les mangroves, pourtant essentielles à la protection côtière, sont particulièrement menacées. Le défi est alors de taille. Comment assurer la croissance économique aussi bien qu'un avenir durable ?
Bonjour l'équipe, et merci pour ce passage de qualité de Maya, Lina et Emma. Aujourd'hui, avec Sacha, Axel, Marton et moi-même, nous allons vous parler d'un sujet trop méconnu, la surpêche. Il nous touche tout particulièrement en tant qu'amoureux de la nature et pêcheur à nos heures perdues. La surpêche est une pratique qui consiste à prélever des quantités de poissons supérieures à celles que les populations peuvent naturellement reconstituer. Ce phénomène est devenu un problème majeur dans le monde entier en raison de l'augmentation de la demande de poissons. C'est vrai que c'est bon quand même le poisson. D'autres raisons, comme l'avancée technologique, des techniques de pêche et la diminution des stocks de poissons dû à la destruction de leur habitat et au changement climatique, abîment la faune marine. Maintenant, Axel et Sacha vont vous présenter les causes et conséquences de la surpêche.
En effet, la surpêche est une conséquence de multiples facteurs. Les lobbies de l'industrie exercent une influence significative sur les gouvernements pour favoriser leur intérêt économique, souvent en détruisant des ressources marines. Ce sont des entreprises qui cherchent à maximiser leurs profits. Ces pratiques non durables provoquent la destruction d'espèces. Des institutions fortes comme l'Union européenne pourraient réguler ces pratiques. Vous connaissez les requins. Leur pêche a été presque encouragée par des décrets visant à faciliter à l'avenir la pêche de ces petites bêtes. Celles-ci sont convoitées notamment pour leurs ailerons, qui sont surtout vendus dans des marchés étrangers.
Et cette surpêche, elle engendre des conséquences très graves, comme une perturbation des écosystèmes, ou même la disparition progressive d'espèces. Prenez la raie manta, par exemple. D'après une étude de l'ESI Business School, leur nombre a diminué de 98% en seulement 60 ans. Les pêcheurs, ils gagnent beaucoup moins, avec des poissons bien moins qualitatifs, et la surpêche entraîne même des pertes pour les communautés côtières, sur, par exemple, leur sécurité alimentaire. Marton va alors maintenant vous expliquer comment y remédier.
Pour réduire la surpêche, plusieurs solutions sont envisageables, comme la régulation ou les taxes. Par exemple, en introduisant des populations de poissons qui respectent un équilibre entre les prédateurs et les proies, on peut maximiser le nombre de poissons pêchés. On peut aussi penser à réglementer la pêche, mais ce n'est pas si simple. La pêche illégale représente entre 12 à 28% de la pêche mondiale, ce qui signifie que réglementer la pêche n'est peut-être pas efficace, car la surpêche illégale continuera. Une solution plus probable est la mise en place de taxes qui va réduire l'exploitation de certaines espèces. Donc, les solutions contre la surpêche ne sont pas toutes possibles, mais il faut les choisir intelligemment. Nous allons maintenant laisser la place à Gauthier, Aymen et Axel qui vont nous parler du 7e continent.
Axel, Aymen et moi-même allons vous parler du 7e continent plastique. Un sujet qui nous tient à cœur depuis la découverte de ce sujet au travers d'une vidéo. Le 7e continent plastique, vous en avez sûrement déjà dû en entendre parler. Mais qu'est-ce que c'est réellement ? Au nord-est de l'océan Pacifique, des millions de tonnes de déchets plastiques se sont regroupés pour former une zone de 3,5 millions de kilomètres carrés. C'est absolument considérable. Cela représente 6 fois la superficie de la France. En réalité, ce n'est pas un vrai continent solide, mais plutôt une zone où la mer est remplie de déchets qui flottent. C'est en 1997 qu'on l'a découvert, et depuis, cette zone n'a cessé de s'agrandir.
Les déchets plastiques ingérés par la faune marine entraînent des blessures, des maladies et même la mort des espèces marines. De plus, le plastique se décompose en microplastiques qui contaminent la chaîne alimentaire marine, menaçant aussi la santé humaine. En outre, la présence de ces déchets nuit aux écosystèmes marins en perturbant les cycles naturels et en dégradant les habitats. Maintenant, je vais vous parler des causes de ce continent de plastique. Tout d'abord, je voulais donner ce chiffre impressionnant. 70% des déchets du continent de plastique proviennent de 5 pays. La Chine, l'Inde, la Malaisie, qui sont des pays avec un mauvais traitement des déchets, ensuite le Canada, qui produit beaucoup de déchets dus à la pêche, et enfin le Japon, malgré eux, à cause des tsunamis. Maintenant, je laisse Aymen vous parler des solutions de ce problème.
Merci Axel. Pour lutter contre le 7e continent de plastique, des actions concertées à l'échelle mondiale sont nécessaires. Il est crucial de réduire la production de plastique à l'usage unique, de promouvoir le recyclage et les alternatives durables, et de sensibiliser le public à l'impact de la pollution plastique sur l'environnement. De plus, le nettoyage des océans et le développement de technologies de dépollution sont des mesures essentielles pour limiter la propagation de ce fléau. En fin de compte, seule une action collective et coordonnée peut contribuer à inverser la tendance et à préserver nos océans pour les générations futures. En somme, le 7e continent de plastique est une menace majeure pour nos océans. Pour y remédier, nous devons agir rapidement en réduisant la production de plastique, en promouvant le recyclage et en sensibilisant le public à l'importance de la conservation marine. Seule une action collective peut inverser cette tendance et protéger nos écosystèmes marins pour les générations futures.
Merci à Aymen, Axel et Gauthier de nous avoir présenté le 7e continent de plastique. Le 12 mars 2022, 80 000 manifestants se sont rassemblés dans toute la France lors de la marche pour le climat. À l'intérieur du cortège parisien, des militants manifestaient en combinaison rouge contre le projet ICOP de Total Energy. Anaïs va donc vous présenter ce projet qui fait polémique.
Total prévoit d'investir 10 milliards de dollars dans la construction et l'exploitation de ce pipeline de 1443 km. Il transporterait du pétrole du lac Albert en Ouganda jusqu'à Tanga, au bord de l'océan Indien. Les bénéfices attendus sont considérables, notamment en termes de revenus provenant du transport du pétrole, ainsi que des opportunités découlant de l'expansion de l'infrastructure énergétique. Il permettra une production de 230 000 barils par jour, soit environ 11 à 12 millions de tonnes par an. Je laisse la parole à Samuel, qui vous parlera des enjeux environnementaux liés à ce projet.
La pipeline Total transporte le pétrole brut sur de longues distances. Elle traverse des écosystèmes fragiles et des habitats naturels sensibles, dont le parc national des Murchison Falls en Ouganda. Les fuites de pétrole peuvent causer des dégâts irréversibles à la biodiversité. Les déversements accidentels polluent l'eau et contaminent les sols. Les émissions de gaz à effet de serre augmentent avec l'exploitation de cette infrastructure. La pipeline Total suscite des préoccupations environnementales majeures. Il est crucial de trouver des alternatives durables pour préserver notre planète. Je vous laisse la parole à Cléophée qui va vous parler des enjeux sociaux du projet ICOP.
Merci Samuel. En effet, le projet ICOP devrait priver plus de 100 000 Ougandais et Tanzaniens de leur terrain, en partie ou en totalité. Mais en privant des habitants de leur terrain, c'est toute la sécurité alimentaire et financière des ménages qui est menacée. Privés de leur terrain, les familles n'ont en effet plus accès aux ressources produites. Ainsi, la déscolarisation des enfants est accrue. De plus, les petits producteurs comme le pêcheur tanzanien Rachidi Machuanatega verraient leur économie menacée. Son petit bateau traditionnel ne lui permettant pas d'affronter les grands vents, sa zone de pêche sera réduite, voire inaccessible, à cause de la pipeline. Ils viennent ici en nous promettant tout. Nous les avons crus. Maintenant, nous sommes sans terre, l'argent de l'indemnisation a disparu, les champs qu'il nous reste sont inondés et la poussière remplit l'air, déclare un habitant ougandais à une ONG.
Aujourd'hui, Benjamin, Romain et moi-même avons décidé de vous parler des serveurs et de leur consommation énergétique. La gestion des centres de données nécessite beaucoup de ressources, notamment de l'eau, pour refroidir les serveurs. Cette utilisation intensive de l'eau peut entraîner des conflits avec les besoins locaux, en particulier dans les régions déjà en manque. De plus, les déchets électroniques provenant des serveurs obsolètes sont problématiques car ils peuvent entraîner une pollution environnementale grave et des risques pour la santé.
L'impact écologique des serveurs est significatif en raison de la consommation d'énergie élevée nécessaire pour les faire fonctionner. Cela peut entraîner des émissions de gaz à effet de serre et contribuer au changement climatique. Mais des initiatives visant à rendre les centres de données plus écologiques, comme l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique, sont en cours pour atténuer ces effets. On peut notamment citer Green Grid ou encore REBA pour l'utilisation d'énergie renouvelable. Il est important de réduire la consommation des serveurs car le développement des serveurs est exponentiel.
Les serveurs informatiques se développent de plus en plus dans le monde. Cela entraîne de nombreux problèmes écologiques. En effet, on ne décompte pas moins de 100 000 serveurs présents en France aujourd'hui. Cependant, un des grands enjeux du développement des serveurs concerne leur recyclage. En effet, cela est un processus complexe, ils doivent être recyclés de manière responsable pour éviter la pollution environnementale. Le problème de ce recyclage est qu'il nécessite des infrastructures appropriées ainsi que des technologies spécialisées. Si leur gestion est mal organisée, ils peuvent entraîner des conséquences sur le long terme comme des problèmes environnementaux ou plus graves, des problèmes pour la santé humaine.
Aujourd'hui, on le sait, l'avion est un moyen de transport très polluant. Un passager de TGV rejette entre Paris et Toulouse 71 fois moins qu'en avion. Alors, les entreprises travaillent sur des moyens de rendre l'avion plus vert. Et depuis quelques années, une solution ressort, l'avion à hydrogène. Mais on peut alors se demander en quoi serait-il mieux. Quels sont les problèmes que rencontrent les entreprises pour développer ces avions ? L'hydrogène est l'élément chimique le plus présent dans l'univers et a un gros avantage pour la planète. Il n'émet pas de gaz à effet de serre, ce qui le rend particulièrement intéressant. Cependant, actuellement, des problèmes surviennent. Cet élément est très explosif et inflammable. De plus, sur Terre, on ne le trouve presque pas seul, on le trouve le plus souvent dans des molécules telles que le H2O. Et même si on sait l'extraire des molécules, ce processus est très polluant car issu de produits fossiles. Alors, même si lors de son utilisation, ce gaz ne pollue pas, sa production, elle, si. En France, elle représente 3% des émissions nationales de CO2. Un autre problème majeur se pose, n'est-ce pas, Valentin ?
Effectivement, un dernier problème majeur se pose, le stockage. Si l'on veut stocker cet élément sous forme de gaz, il faudrait qu'il soit sous haute pression, dans des contenants volumineux. Et si on veut le stocker sous forme liquide, ce qui prendrait moins de place, on doit le stocker dans un réservoir cryogénique énergivore, à moins 253 degrés. Pour toutes ces raisons, l'avion hydrogène paraît être un défi climatique, un défi complexe. Cependant, certains sont optimistes face au défi que soulève l'hydrogène. Ainsi, Airbus a investi plusieurs milliards d'euros dans ce projet et compte sortir des avions à hydrogène d'ici 2035. Maintenant, je laisse la parole à Martin qui va vous parler de l'aviation à Toulouse.
En effet, à Toulouse, par exemple, berceau de l'aviation européenne, Airbus fait des pas de géant vers un avenir plus durable, avec son avion à hydrogène. Cette technologie révolutionnaire permet des vols plus propres et plus respectueux de l'environnement. Par exemple, Airbus s'engage à repousser les limites de l'aviation verte, transformant ainsi l'aéronautique et contribuant à la lutte contre le changement climatique. Toulouse s'inscrit donc dans une histoire d'excellence aéronautique au service de la planète. Merci de nous avoir écoutés, nous allons désormais aborder le sujet des JO 2024 à Paris.
C'est Maïssam, aujourd'hui on parle des JO, c'est le prochain grand événement mondial. Début de la compétition dans 130 jours et un impératif, l'écologie. Les organisateurs permettent des Jeux Olympiques et Paralympiques écolos qui doivent émettre 1,58 million de tonnes de CO2. Ce chiffre est énorme, mais il reste deux fois inférieur aux émissions des Jeux de Londres en 2012, au Rio en 2016. Des mesures pour réduire l'empreinte carbone de l'événement sont mises en place grâce à une stratégie basée sur quatre piliers. Des sites sobres en carbone, des transports durables, une alimentation responsable et la mobilisation de l'acteur économique. Malgré les défis environnementaux, les JO de Paris 2024 s'engagent à être un exemple de durabilité pour les futurs événements sportifs internationaux. Mais qu'est-ce que les organisateurs prévoient d'utiliser, Margot ?
Alors, les organisateurs prévoient des JO les plus verts possibles. Les infrastructures seront à 95% préexistantes, malgré la construction d'une aréna et d'un centre aquatique. L'utilisation des énergies renouvelables et surtout un gros effort au niveau des transports. Malgré les 15 millions de touristes attendus, dont 12% qui vont prendre l'avion pour venir de l'étranger, les transports en commun seront priorisés et les lignes plus fréquentes. Une cuisine plus végétale et un système anti-gaspi seront mis en place. Les organisateurs s'engagent aussi à employer des producteurs locaux. Oran, pourrais-tu nous apporter plus de précisions ?
Eh oui Margot, on se souvient de 2022. Beaucoup de constructions commençaient à être mises en place pour les Jeux de cet été. On assistait alors à un élan de révolte des écologistes. À Aubervilliers, les défenseurs de l'environnement ont réussi à protéger des jardins ouvriers de la construction du solarium. Petite victoire pour ces locaux face aux géants olympiques. Même si l'infrastructure a vu le jour quelques kilomètres plus loin. Rappelons que la position de Paris 2024 pour les infrastructures est plus ou moins progressiste pour l'environnement. On cherche surtout à recycler des infrastructures existantes ou à en construire des temporaires. Paris affiche ainsi un modèle plus sobre que ses prédécesseurs londoniens et Carioca.
Sujet donc très actuel. Merci pour votre écoute. À présent, toujours dans le domaine du sport, passons à un autre sujet, l'alliance entre écologie et Formule 1.
«
Ce week-end avait lieu le deuxième Grand Prix de la saison en Arabie Saoudite qui s'est soldé par une victoire écrasante du Néerlandais de l'équipe Red Bull, Max Verstappen, triple tenant du titre. La Formule 1 est un sport particulièrement polluant. De ce fait, la Fédération Internationale de l'Automobile, la FIA, a décidé d'agir après avoir vu la pollution causée par ces courses. En effet, une saison de Formule 1 dégage plus de 250 000 tonnes de CO2. Cependant, ce problème ne vient pas tant des moteurs. En fait, les moteurs ne dégagent que 0,7% du CO2 émis. Le jeune pilote français Esteban Ocon s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet. Il faut savoir que les moteurs de F1 sont ceux qui polluent le moins au monde parce qu'on gaspille moins d'essence que n'importe quelle voiture. Avec les nouveaux moteurs hybrides, les plus aboutis au monde, on obtient une consommation qui est très réduite. Je passe maintenant la parole à Antonin qui vous parlera de la pollution liée aux déplacements, puis aux infrastructures.
Le planning des Grands Prix de Formule 1 à travers le monde pollue beaucoup, avec des courses aux quatre coins du monde. Chaque week-end, il faut faire suivre les voitures, mais aussi les 2000 personnes qui travaillent en lien avec la Formule 1. Il faut donc prendre beaucoup de moyens de transport très polluants, tels que l'avion, le bateau ou les camions, pour transporter le matériel et les personnes. Les transports représentent plus de 27% de l'empreinte carbone de la Formule 1. Mais les différentes pistes et infrastructures sont aussi une source de pollution. De plus en plus de circuits s'efforcent de réduire leur empreinte écologique en adoptant des pratiques de construction durable et en investissant dans des initiatives de reforestation. Certaines pistes ont même introduit des panneaux solaires et des systèmes de récupération d'eau pour minimiser leur consommation d'énergie et leur utilisation de ressources naturelles.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Elon Musk est un entrepreneur connu pour avoir fondé des entreprises telles que SpaceX et Tesla. Il est reconnu pour son ambition dans l'exploration spatiale et véhicules électriques. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à son projet d'aller sur Mars. Le projet d'Elon Musk pour aller sur Mars est ambitieux et captivant. Il vise à coloniser la planète rouge en envoyant des humains y vivre de manière permanente. Pour ce faire, Musk a fondé SpaceX en 2002 avec l'objectif d'assurer la survie de l'humanité en dehors de la Terre.
Sur le plan écologique, le projet d'Elon Musk pour coloniser Mars suscite des inquiétudes quant à son impact environnemental, notamment en termes d'émissions de carbone dues au lancement de fusées. Cependant, il offre également des possibilités de développement technique durable, comme des avancées dans les énergies renouvelables et la gestion des ressources naturelles.
Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.
À bientôt.
Arrivederci. Hasta luego.
Arrivederci.
À bientôt.